Aussi loin que se porte mon regard, c'est une véritable mer humaine, un véritable flux et reflux de cette foule qui gigote, qui s'agite, qui ne peut pas rester deux secondes en place. La cohue est bruyante, remuante, riante, volubile et insouciante.
Cette foule de 1948 était joyeuse. Si d'autres se révèlent solidaires, certaines sont carrément dangereuses. Une foule peut même se montrer intelligente et réaliser des prouesses inattendues. Le comportement d'une foule est particulier. Il est en mesure aujourd'hui d'être prédit par les chercheurs. Les foules, tel est l'objet d'études de Mehdi Moussaïd, un chercheur en sciences cognitives pratiquement unique au monde et dont le laboratoire se situe à l'Institut Max Planck à Berlin. Cela fait une douzaine d'années que Mehdi Moussaïd scrute et sonde les comportements des foules. S'il utilise beaucoup les sciences cognitives, il met à contribution de nombreuses autres disciplines pour pratiquer ce qu'il appelle la fouloscopie.
Les aventuriers sur France Inter.
Mehdi Moussaïd, bonjour.
Bonjour Fabienne Chauvière.
Quel est le travail d'un foulologue véritablement ?
C'est comme pour tous les chercheurs déjà, mon premier travail c'est de créer de la connaissance. Et sauf que pour moi cette connaissance, eh bien, elle va se focaliser sur notre comportement à tous, notre comportement collectif quand on est tous ensemble dans un stade, dans une salle de concert et aussi sur internet, sur les réseaux sociaux. Donc nos comportements collectifs, le comportement de la foule, c'est le sujet que j'étudie au quotidien.
Quelles sont les questions auxquelles vous essayez de répondre ?
Eh bien, on essaie de comprendre ce qui se passe. Hein. C'est assez global comme approche. Donc, il va y avoir des thèmes différents, donc comme le déplacement collectif des piétons dans les rues, par exemple. On va essayer de comprendre comment se déplacent les piétons, comment ils interagissent les uns avec les autres. Et puis, le but, quand même, c'est d'essayer de prédire ce qui va se passer dans les minutes à venir ou dans un certain environnement. De la même façon, si on parle de jugement ou de pensée collective, eh bien, on va essayer de voir comment les gens s'influencent les uns les autres. Et puis, de manière ultime, essayer de construire des modèles qui nous permettent de prédire comment va se comporter ou réagir ou comment va penser une foule dans un certain environnement.
De belles questions, donc, des questions très, très intéressantes. Mais comment vous y prenez-vous ? Vous allez sur place ?
Oui, donc comme pour tout travail de recherche, c'est un mélange de données expérimentales et de modélisation mathématique. Je vais chercher la foule là où elle se trouve, donc son milieu naturel en quelque sorte à la foule, ben c'est les centres-villes, les transports en commun, les salles de concert, ce genre de choses. Donc je vais essayer de trouver un endroit intéressant où va arriver une foule bientôt, je vais placer des caméras vidéo, je vais faire des films, et ensuite, de retour au laboratoire, on va analyser ces films avec de l'analyse d'images, par exemple, pour essayer de voir comment se sont déplacés les gens. Ça, c'est dans un premier temps, mais il y a aussi un autre aspect, qui est la modélisation mathématique, qui est un peu plus surprenante. Hein. Souvent, les gens sont un peu étonnés qu'on puisse modéliser mathématiquement le comportement d'une foule, mais c'est tout à fait possible. On peut écrire des équations mathématiques qui décrivent comment vont se déplacer les gens dans une rue, par exemple.
Voilà pourquoi vous travaillez avec des mathématiciens, des informaticiens et aussi des sociologues.
Exactement, c'est ce qui est, je trouve, assez fascinant dans ce sujet, c'est que, eh bien, il est par nature pluridisciplinaire, quoi. C'est-à-dire que comme on parle de comportement humain, eh bien, nécessairement, on va faire appel à des choses qui relèvent peut-être des sciences humaines, de la psychologie, par exemple, ou des sciences comportementales, des sciences cognitives, hein, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de notre cerveau, comment on réfléchit, d'une part. Et puis d'autre part, comme il y a quand même ce comportement collectif qui est prévisible, eh bien, on va aussi beaucoup s'appuyer sur des notions de physique. C'est la discipline dominante dans l'étude du comportement des foules. Je sais que ça paraît un peu étonnant au premier abord, mais c'est vraiment la communauté la plus importante, ce sont les physiciens qui vont étudier les foules. Et effectivement, je pense qu'on va avoir l'occasion d'en reparler, il y a beaucoup d'analogies entre le déplacement d'une foule et le comportement de la matière inerte.
Vous en reparlerez dans un instant, mais j'aimerais bien que vous me racontiez comment vous avez étudié les piétons dont vous parliez il y a un instant, et vous avez fait des découvertes sur le déplacement des piétons. Par exemple, quand des gens se déplacent en ville, ils se percutent très rarement. Et vous avez compris pourquoi.
C'est vrai, c'était mon tout premier projet de recherche en réalité. C'était au début de mon doctorat, donc je pense qu'on est un peu avant 2010. Et mon premier projet de recherche était le suivant. On se demandait pourquoi deux piétons qui s'approchent face à face ne vont presque jamais se percuter, en réalité jamais. sauf un cas exceptionnel. Et comment ils font en particulier? Donc ça peut paraître une question un petit peu légère, mais en fait c'est assez intéressant parce que si on y réfléchit, mettez-vous à la place d'un piéton qui marche dans la rue, vous faites ça tous les jours, et arrive en face de vous un autre piéton, et bien vous allez devoir prendre une décision, est-ce que vous allez l'éviter par la droite ou par la gauche? Bon, a priori ça paraît assez insignifiant comme décision, mais imaginez bien que l'autre personne doit aussi prendre une décision, la même façon par la droite ou par la gauche. Et si on arrive tous les deux à prendre la même décision, donc si on décide tous les deux de passer à droite, on va réussir à s'éviter. Si on décide tous les deux de passer à gauche, on va réussir à s'éviter. Mais si on fait un choix différent, donc moi je vais à droite et l'autre à gauche, etc., ben on va se rentrer dedans. Et donc si on fait un petit calcul mathématique tout simple de probabilité, ben normalement il y aurait une chance sur deux pour que les piétons se percutent à chaque croisement. Or dans la vraie vie, les piétons se percutent pas une fois sur deux, bien heureusement. Donc comment font-ils ? À quel moment va se produire ce mécanisme de coordination entre deux inconnus qui n'ont que quelques secondes pour prendre la même décision ? Eh bien, on a fait une expérience pour ça. Donc, vous me demandiez tout à l'heure comment on fait. Cette fois-ci, on a besoin d'avoir du contrôle. Donc, on va réaliser une expérience. On a construit un couloir. On a recruté des participants, des paires de participants. On en met un à une extrémité du couloir, un à l'autre extrémité. On leur donne le top départ et ils doivent juste traverser le couloir. Et ce qui va se passer, c'est qu'ils vont se croiser au milieu. Et nous, on va regarder comment ils ont fait pour se coordonner. Donc au début, on avait des hypothèses, par exemple, peut-être qu'ils échangent des petites informations avec, vous savez, un regard ou bien un petit pas de côté qui dit « Ok, je vais passer de ce côté-là, donc tu passes du même côté, etc. » Mais en fait, c'est beaucoup plus simple. Les piétons n'ont même pas besoin de se regarder. Ils ont une forme de coordination qui est en eux, en quelque sorte, puisqu'au premier pas, ils vont décider spontanément de s'éviter par la droite. Comme s'il y avait une règle comportementale qu'on partageait tous, qui nous a pas été enseigné à l'école ou autre, qu'on partage tous et qui dit, ben, quand vous évitez un inconnu, pour éviter de lui rentrer dedans, choisissez la droite parce qu'il y a de fortes chances pour qu'il fasse la même chose.
C'est culturel.
Oui, exactement, c'est culturel, on appelle ça une convention sociale, et ça ne marche que parce que cette convention est partagée par l'ensemble de la population dans un pays donné. Ce qui est intéressant, c'est que si on voyage dans un autre pays, eh bien on va trouver des populations qui ont une autre convention sociale, qui eux vont être tous d'accord pour s'éviter par la gauche, par exemple. C'est le cas, par exemple, au Japon, dans certains pays d'Asie.
Alors ça marche, voilà. Ça marche pour les piétons, pour les voitures, c'est une autre histoire.
Il faut pas reculer, il faut avancer.
Ah bah j'ai rien dit. Avancez. Alors vous, reculez. Soyez chouette, reculez.
Avancez.
Et vous, alors, vous êtes calmé, oui.
Gendarme, nous sommes terriblement pressés.
Merci, madame.
Petit clin d'œil, Mehdi Moussaïd, avec un extrait du Gendarme en balade avec Louis de Funès en 1970. Ce qui marche pour les piétons ne marche pas forcément pour les automobiles.
Quand on imagine cette préférence pour l'évitement par la droite, en général, les gens me demandent immédiatement, mais ça vient du code de la route? Est-ce que les piétons s'évitent par la droite dans les pays où les voitures roulent à droite aussi, par exemple? Et effectivement, c'est une hypothèse qui est assez intéressante, puisqu'on voit qu'il y a une certaine corrélation. Ce qui est intéressant, surtout, c'est qu'il y a des exceptions. Donc, il y a des pays où les piétons marchent d'un côté et les voitures roulent de l'autre. Donc, ce n'est pas une conséquence directe, en quelque sorte, vous voyez. Par exemple, si vous regardez sur Internet des images du centre-ville de Londres, sur Oxford Street, vous allez voir que les piétons s'évitent par la droite, que marchent principalement du côté droit de la rue, alors qu'on le sait, les voitures roulent à gauche. Et donc, en fait, il y a effectivement cette influence du code de la route qui vient influencer le comportement des piétons. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi une forme d'apprentissage. Les pays voisins, par exemple, vont avoir tendance à s'influencer beaucoup parce qu'on sait qu'il y a des populations qui vont passer d'un pays à l'autre assez facilement. Et donc, il va y avoir ce mélange, en quelque sorte, de culture qui fait que, eh bien, dans certains pays, les piétons s'évitent par la droite, dans d'autres par la gauche.
Voilà pour les piétons. Vous vous intéressez aussi, en ce moment, à la capacité d'une foule à chanter juste, à chanter à l'unisson.
Alors, effectivement, on est sur un thème un peu différent là. On n'est pas dans cet esprit du déplacement collectif. Donc c'est vraiment une branche de mes recherches qui concerne le déplacement collectif, donc les foules qui marchent. On s'intéresse aussi parfois à ce que peut faire une foule autre qu'en termes de déplacement. Et il y a un domaine d'application qui est assez intéressant, qui est assez peu étudié, je dois le dire, qui est celui du chant collectif. Et effectivement, on s'est rendu compte en regardant des vidéos sur Internet, tout simplement, ou en allant à un concert, que lorsqu'une foule se met à chanter à l'unisson une chanson particulière, eh bien, ça sonne particulièrement bien. Ce qui est assez étonnant, parce que les gens qui composent la foule, eux, ne chantent pas tous juste. Alors comment ça se fait que collectivement la foule chante juste alors que les individus non? Et il y a quelques éléments de réponse qui commencent à apparaître, qui sont assez intéressants. Il y en a deux en particulier. Le premier, c'est celui de l'influence sociale. Et il se trouve que dans une foule, effectivement, les gens qui chantent juste ont un peu plus confiance en eux et vont avoir tendance à chanter plus fort et à ne pas se faire influencer par les autres. Alors que ceux qui chantent faux ont un peu moins confiance en eux, vont un peu plus écouter leurs voisins et vont s'ajuster. Et donc, par un effet d'influence comme ça locale entre voisins, eh bien, on peut arriver à un tout qui est plus ou moins juste. Mais la seconde hypothèse est encore plus intéressante, en fait. La seconde hypothèse, c'est que c'est un effet acoustique, tout simplement, une forme de d'illusion acoustique. Il se trouve que, et là, c'est vraiment de la physique, hein, il se trouve que c'est la propriété des signaux acoustiques. Il se trouve que lorsque vous mélangez des sons qui sont certains un petit peu trop aigus et d'autres un petit peu trop graves, si la distribution est symétrique en quelque sorte, eh bien en mélangeant ces sons à votre oreille, ça va sonner juste. Et c'est probablement ce qui se passe dans une foule.
Alors écoutez ce son qui date de 1958, le général de Gaulle face à la foule, place de la République, le 4 septembre, il présentait la nouvelle constitution que les Français devaient ratifier.
S'il vous plaît, avant de nous séparer, tous ensemble, chantons l'hymne national, la Marseillaise. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, les tendards sont
Mehdi Moussaïd, que pensez-vous? Que provoque chez vous ce chant très fort?
Ben, par déformation professionnelle, déjà, il va provoquer quand même pas mal de curiosité scientifique. Je vais commencer à essayer de réfléchir, de voir quelle est l'influence qu'a le leader, dans ce cas-là, le général de Gaulle, sur le rythme de la foule, etc. Bon, c'est une déformation, mais après, si j'essaie de prendre un petit peu de recul, de m'éloigner un petit peu de mes recherches, eh bien, ça donne la chair de poule quand même.
Je suis bien d'accord.
I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle wind on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm backing up good vibrations. She's giving me the excitations. Softly smile, I know she must be kind. In her eyes, she goes with me to a blossom room.
I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations, but not good, good vibrations, but not so excitations, but not good, good vibrations, but not so excitations. Love, 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 love
vibrations are happening with her.
On ne s'en lassera jamais des Good Vibrations des Beach Boys.
Les aventuriers sur France Inter.
Les rassemblements de foule intéressent de plus en plus les scientifiques, car mieux vaut les connaître. Une densité trop forte de personnes peut entraîner des catastrophes. Mehdi Moussaïd, que provoque le fait d'être ensemble, vous qui étudiez ce phénomène depuis longtemps ?
D'une manière générale, parce qu'il y a vraiment beaucoup de cas particuliers, mais d'une manière générale, les grands rassemblements vont avoir tendance à amplifier, à exacerber ce que les gens qui se rassemblent ont en commun. D'accord. Donc si vous avez par exemple plein de gens qui sont très heureux, disons après la victoire de l'équipe de France en Coupe du Monde, et qui vont se rassembler dans la rue, eh bien ce bonheur, quand on est tous ensemble, il va être exagéré, il va être amplifié en quelque sorte, et vous allez avoir des scènes d'euphorie, comme vous allez pouvoir peut-être vous mettre à pleurer de joie, alors que c'est pas quelque chose que vous auriez fait tout seul ou toute seule dans votre appartement. Donc ça, c'est une forme d'amplification. L'amplification, elle ne se fait pas uniquement sur des émotions positives, hein. Ça peut être des choses plus négatives, hein. Si vous êtes en colère, par exemple, devant votre télévision, en regardant quelque chose, qu'il y a plein de gens qui sont en colère et que les gens descendent dans la rue, eh bien, ces colères, elles vont se multiplier, elles vont s'amplifier, puis vous allez avoir une foule qui est exagérément en colère, en quelque sorte. Donc, c'est vraiment l'amplification de ce que les gens ont en commun.
À partir de combien de personnes au mètre carré peut-on dire qu'il y a une foule ? J'ai compris que la densité est une donnée très importante dans votre discipline.
La densité, c'est effectivement une donnée essentielle. C'est la première chose que je vais regarder quand je suis face à une nouvelle situation. Ce qui est intéressant, c'est pas le nombre de personnes. Ce qui est intéressant, c'est le nombre de personnes par mètre carré. Et c'est donc ça la définition de la densité. Et effectivement, plus il y a de monde au mètre carré, plus on va avoir des effets différents qui vont apparaître. Par exemple, quand on marche dans la rue, on est en dessous de une personne par mètre carré, et on est à la limite dans ce qui n'est presque plus une foule, ce sont plus des interactions entre individus. Quand vous êtes tout serré dans les transports en commun, vous pouvez être autour de 3-4 personnes par mètre carré. Et là, effectivement, il va y avoir beaucoup d'influence entre les gens, on va avoir plus d'effets d'amplification. Et dans les cas extrêmes, dans les cas des grands rassemblements, vous pouvez mesurer des densités qui montent très très haut. La densité la plus importante qu'on ait jamais mesurée, elle était de 10 personnes par mètre carré. Ah. Donc je vous laisse imaginer, ouais, un mètre carré et vous avez 10 personnes qui sont compressées là-dedans. Et ce n'est pas juste sur un mètre, hein, ça s'étend sur plusieurs dizaines de mètres. Et ça, c'est des densités typiquement qu'on observe pendant le pèlerinage religieux à la Mecque. Et quand on arrive à ces niveaux-là, en général, c'est synonyme d'accidents et de victimes.
On va en parler dans un instant. Mais je vous propose d'écouter un extrait sur le comptage vu par Yann Barthès pour Canal+ en 2010.
Premier vrai test marseillais, ont-ils le compas dans l'œil ?
Je pense qu'on serait pas loin des 400 à 500 000. Ouais, au moins.
Ça s'approche du million peut-être, je ne sais pas. Hein,
ne laissons donc pas la place au hasard. Deuxième manière plus sérieuse, la technique dite du clic. Les médias locaux, France Bleu, Provence et la chaîne Marseille, la chaîne locale, expliquent leur technique.
On est en train de compter les manifestants. Donc chaque fois qu'il y a une ligne qui passe, on a identifié qu'ils étaient une vingtaine par ligne. Donc chaque ligne, un clic.
Retour à la rédaction de la chaîne Marseille. Et surprise, leurs chiffres sont moins élevés que ceux de la police.
On arrive à 18 235, les syndicats 230 000, la police 24 500.
Et vous, Mehdi Moussaïd, comment est-ce que vous comptez ?
Nous, quand on compte pour nos projets de recherche, on doit utiliser des programmes informatiques qui font ça automatiquement pour ne pas influencer les nombres, parce que le cerveau humain est très malléable. Et donc, nous, c'est un ordinateur qui le fait. On a des programmes qui sont capables, de sur une vidéo, par exemple, de détecter les têtes des gens si c'est filmé du dessus, et qui vont aller compter combien il y a de personnes une par une. D'une manière générale, il faut savoir que notre cerveau va être influencé par ce qu'on a envie d'entendre ou ce qu'on a envie de voir. C'est tout à fait inconscient, hein, et c'est pas nécessairement, il y a pas nécessairement de mauvaise intention derrière. Donc quand vous avez des gens qui ont compté beaucoup de manifestants et d'autres qui ont compté beaucoup moins de manifestants, c'est pas nécessairement qu'ils ont triché ou qu'il y ait un complot derrière. C'est juste que on va avoir tendance à chaque comptage, par exemple, si on compte des lignes, on va avoir tendance à en compter un tout petit peu plus spontanément. C'est le cerveau qui va faire ça pour que les choses restent cohérentes dans notre cerveau. On aime quand ça reste cohérent. Et c'est pour ça qu'on obtient des chiffres complètement différents, par exemple, pendant une manifestation entre syndicats et la police. Mais si vous faisiez compter d'autres choses qui sont complètement pas politisées, en quelque sorte, vous faites compter des moutons à quelqu'un qui a intérêt à ce qu'il y ait beaucoup de moutons, eh bien cette personne va avoir beaucoup de moutons. Malgré elle, hein, sans mauvaise intention. Et s'il y en a une qui a intérêt, qui est peu de moutons, bah elle va en compter beaucoup moins. C'est un biais cognitif qu'il y a dans notre cerveau naturellement.
Vous l'avez dit, les foules peuvent se révéler dangereuses. Vous avez évoqué le pèlerinage de la Mecque, jusqu'à 10 personnes au mètre carré. À partir de combien de personnes au mètre carré ça commence à devenir dangereux ?
Ça, c'est assez intéressant, parce qu'il y a une transition qui va s'opérer autour de 6 ou 7 personnes par mètre carré. La valeur exacte n'est pas connue, de toute façon elle dépend du contexte, mais autour de 6 ou 7 personnes par mètre carré, il y a quelque chose qui va se passer, c'est que les gens vont commencer à être en contact physique les uns avec les autres. Donc ils vont vraiment être touchés, collés les uns sur les autres. Et à partir de là, la foule va devenir un objet physique, parce qu'à chaque fois qu'une personne va bouger, elle va faire bouger son voisin nécessairement puisqu'il se touche, le voisin va toucher son propre voisin, qui va pousser son propre voisin, etc. Et on va avoir comme ça des vagues de bousculades qui vont commencer à se propager à travers la foule. C'est comme si la foule devenait un objet liquide, et en fait, cette analogie est tout à fait juste, parce que nous, pour étudier les foules très denses, on se sert de la physique, on se sert de la mécanique des fluides, et on considère que la foule est un fluide, et on utilise des équations vraiment, et en fait, ça marche très bien. Parce qu'à partir d'une certaine densité, de toute façon, que vous vouliez aller à droite, à gauche ou devant vous, eh bien, vous n'avez pas le choix, parce que vous êtes contraint par le déplacement de vos voisins. Et donc, l'ensemble va devenir un système qui est presque inhumain, en quelque sorte, puisqu'il n'y a plus aucune liberté de décision, de mouvement au sein de la foule, et ça va devenir un système physique avec donc ces vagues de bousculades qui sont très dangereuses, puisque elles peuvent faire chuter les gens, par exemple, qui peuvent être piétinés, ou les gens peuvent se retrouver, par exemple, écrasés contre une paroi. C'est ce qui se passe le plus souvent pendant ces accidents.
Le drame du pèlerinage de la Mecque en 2015 a provoqué la mort de plus de 2000 personnes. Extrait d'un reportage de Claude Samper diffusé sur France 2.
Le drame s'est produit vers 9h du matin. Le bilan est très lourd, 717 morts, plus de 800 blessés. Les secours sont intervenus très vite dans des conditions difficiles. Ils ont dû se frayer un chemin à travers la foule. À l'hôpital, les rescapés racontaient tous la même histoire.
Je revenais du pont de Jamarat, j'étais avec mon mari. Des pèlerins ont commencé à se pousser les uns les autres. Certains sont tombés. J'ai failli mourir.
Comme chaque année, le traditionnel pèlerinage à la Mecque avait attiré des fidèles du monde entier, plus de 2 millions de personnes. Ils se déplacent d'un point à l'autre à pied, en suivant ces immenses corridors à sens unique. Depuis des années, le gouvernement saoudien a dépensé des millions pour créer des ponts et des autoroutes piétonnes afin de limiter les risques. La bousculade d'aujourd'hui s'est produite à 5 km de la Mecque. Deux groupes de pèlerins se sont retrouvés face à face, provoquant l'immense bousculade. D'après un ministre, certains fidèles indisciplinés n'auraient pas respecté les sens de circulation.
Alors Mehdi Moussaïd, cette bousculade a été très étudiée par les chercheurs, dont vous. Qu'est-ce que ça vous a appris et comment expliquer cette bousculade très mortelle ?
Ouais, elle est terrible cette bousculade parce qu'elle se produit en plus à un moment où on commençait à avoir de l'espoir en fait. Ce qui s'est passé par rapport au pèlerinage de la Mecque, c'est que dans les années 90 et début des années 2000, c'était un véritable désastre. Il y avait un accident presque tous les deux ans avec plusieurs centaines de morts à chaque fois, toujours causés par ces bousculades. En 2006, il y a un moment charnière. 2006, le laboratoire où j'étais jeune doctorant à l'époque, qui étudiait les foules, a commencé à se procurer des enregistrements vidéo de ces accidents qui se produisent à la Mecque. Et il se trouve qu'au moment où on a filmé la première fois, il y a eu un accident très grave en 2006, une bousculade qu'on a pu étudier pour la première fois avec des outils informatiques. Donc on a pu vraiment analyser ce qui se passait. C'est là qu'on a découvert ces vagues de bousculade, c'est là qu'on a découvert les seuils de densité. Et à partir de ce moment-là, on a dit, ben en fait, c'est assez facile, il suffit de maîtriser la densité. Si on arrive à maîtriser la densité, qu'on s'assure qu'elle ne soit jamais au-dessus de ces seuils critiques, eh bien, ça devrait bien se passer. Et à partir de 2006, c'est là qu'ont été mis en place, comme on a entendu dans le reportage, ces voies de circulation à sens unique, par exemple, des voies extrêmement larges. On a enlevé tous les rétrécissements de la voie, etc. Et de 2006 à 2015, il n'y a pas eu d'accident. Et donc, c'est ce que je vous dis, et c'est un moment où il y avait de l'espoir, où on commençait à dire, OK, on arrive à maîtriser cette étrange créature qu'est la foule, on arrive à comprendre qu'est-ce qui l'énerve, etc., pour utiliser un peu une métaphore. Et c'est là qu'en 2015, on a cet accident horrible. Ce qui se passe, c'est que le risque zéro n'existe pas. On a des foules qui sont de plus en plus importantes. Il faut à chaque fois continuer à augmenter l'espace. Et c'est dur de contrôler une foule parce que les gens se déplacent, sont entraînés les uns par les autres à des endroits qui n'étaient pas nécessairement prévus au début. Ce qui fait que parfois, on va perdre le contrôle.
Alors, quelques conseils quand on est coincé dans une foule?
La très grande majorité des gens qui vont mourir pendant une bousculade le sont par asphyxie, en fait. On s'en rend pas, on le sait pas nécessairement. Donc c'est vraiment le fait de les gens soient trop serrés les uns contre les autres. Et l'objectif, c'est vraiment d'essayer de garder autour de vous un tout petit espace pour pouvoir continuer à respirer. Donc par exemple, un conseil qu'on donne, c'est de replier vos bras le long de votre thorax, un peu dans la position d'un boxeur, ce qui va vous permettre de dégager ne serait-ce que quelques centimètres pour pouvoir continuer à respirer, par exemple. Un autre conseil serait de rester bien sur vos jambes, parce que souvent, lorsqu'une personne chute, elle va faire chuter ses voisins par effet domino. Et bon, après, je vous passe les détails, mais disons que c'est pas une très bonne situation. Donc, essayez tant que possible de regarder où vous mettez les pieds. Il y a souvent des sacs à dos, par exemple, qui peuvent vous faire trébucher. Et peut-être un troisième conseil, j'en aurais beaucoup plus, mais peut-être un troisième qui serait d'éviter les parois et les murs, éviter les parois solides, parce qu'en général, quand vous êtes bousculé par vos voisins, vous allez bousculer vos propres voisins, et puis ça va entraîner comme ça une sorte de vague, ce qui n'est pas très grave tant que vous restez sur vos jambes. Par contre, s'il y a un mur, eh bien, il peut y avoir des gens qui vont se faire écraser le long du mur. Vous n'avez pas envie d'être à cet endroit-là, à ce moment-là.
Mehdi Moussaïd, dans un instant, on parlera de la rumeur, vous voulez bien?
Oui, avec plaisir.
Cherchant notre chemin, on s'était arrêté dans une ville éventrée, le monde s'embourbait dans les rues encombrées, poursuivis par des averses sans fin. Vite, nous nous sommes engouffrés dans une bouche de métro édentée. Escalator mécanique désarticulé, on se pressait dans la mêlée sans s'entendre ni se parler. Entre deux souffles, nos sens à l'affût désorientés, on a suivi le flux, le flux de la foule, le flux, flux de la foule, le flux, flux de la foule, le flux, flux de la foule. Comme un intestin, on a suivi les gens dans l'air moite, le fracas, tout devenait flippant. À coups de pelle mécanique frénétique, les bulldozers au-dessus nos têtes défonçaient les chaussées décrépites, ignorant les frêles, les mous, les neurasthéniques. Les flics semaient le chaos avec leur sirène américaine. Entre deux souffles, nos sens à l'affût désorientés, on a suivi le flux.
Le flux, flux
j'avais besoin de fenêtres ouvertes sur un panorama. Il se profilerait lentement sur le crête, le sommet. Un soleil bien jaune étincelant qui nous aiderait à tenir verticalement. Éloigné du fil.
C'était Françoise Breux des Rives Urbaines dans la ville cannibale.
Les Saventuriers, une émission de Fabienne Chauvière sur France Inter.
Mehdi Moussaïd, spécialiste des foules, s'intéresse aussi au phénomène de la rumeur. À l'heure des fake news et d'Internet, il a compris que les fausses informations se propagent environ 6 fois plus rapidement que les vrais. C'est vrai ça, Mehdi Moussaïd, le mensonge voyage mieux que la vérité?
Oui, c'est tout à fait vrai. Alors, pour être précis, ce n'est pas ma découverte. Ce sont des collègues du MIT qui l'ont fait. C'était en 2018 ou 2019. Et effectivement, ils ont fait quelque chose de très intéressant. Ils se sont intéressés donc aux foules numériques, hein, donc les foules qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, et plus précisément à voir comment circulait l'information d'une personne à une autre, et en particulier comment circulent les vraies et les fausses informations. Donc ils ont recueilli des informations qui passaient d'une personne à une autre sur le réseau social Twitter, je pense, et de toutes ces informations, ils les ont classées en 2 groupes, celles qui sont vraies et celles qui sont fausses. Et là, on va regarder à quelle vitesse elles se propagent, on va regarder jusqu'où elles vont. On parle de la profondeur de propagation, donc c'est vraiment, j'envoie une information à une personne qui va l'envoyer à une autre, qui va l'envoyer à une autre, qui va l'envoyer à une autre. Et jusqu'où ça va comme ça, cette chaîne de transmission. Ça, on appelle ça la profondeur de la propagation. Et ils se sont rendus compte d'une très mauvaise nouvelle, c'est que dans le paquet des fausses informations, les informations circulaient beaucoup plus vite, de manière beaucoup plus profonde, donc beaucoup plus profondément dans le réseau, et d'une manière générale, avaient un taux de propagation qui était bien supérieur à celui des vraies informations.
On a compris pourquoi.
On a des hypothèses pour savoir pourquoi. C'est assez intuitif. Les fausses informations, elles ont tendance à être simples et sensationnelles. Alors que la vérité, c'est souvent un peu compliqué. Quand on va être précis, c'est souvent dans un certain contexte, dans certaines conditions, etc. Et une information vraie va être par définition un peu moins sexy, un peu moins sensationnelle qu'une information fausse et un peu simpliste. Et donc, c'est très probablement une des raisons principales.
Les fausses informations, les rumeurs, ce n'est pas un phénomène nouveau. Je vous propose un reportage qui a été diffusé en 1969 sur la 2e chaîne de télévision avec l'analyse du sociologue Edgar Morin.
Une camarade de classe m'a averti en me disant, tu sais, voilà ce qui se passe à Orléans, des magasins sont incriminés dans la traite des blanches. Et enfin, je t'avertis, et à ce moment-là, plusieurs camarades sont approchés. Elle nous a dit, surtout, je vous dis ça, uniquement pour que vous n'y alliez pas toute seule.
Enfin, de qui tenait-elle cette rumeur?
C'était par sa belle-sœur. Ce serait arrivé à la femme d'un ami de sa belle-sœur.
La rumeur disait aussi, attention aux cabines d'essayage. C'est ce qui a frappé Edgar Morin, sociologue, qui enquêtait à Orléans sur l'affaire.
Alors, la chose qui est extraordinaire, c'est que, il y a une sorte de force irrésistible qui la fixe sur le commerçant juif. Et finalement, qu'on va sacrifier comme bouc émissaire. Ce fantôme du juif commence à sortir des profondeurs où on le croyait à jamais enfoui. Alors, c'est ça, à mon avis, le terrain favorable de cette rumeur.
La rumeur d'Orléans en 1969, un phénomène auquel vous vous êtes aussi intéressé, Mehdi Moussaïd.
Ouais, c'est vrai. Ce qui est intéressant, c'est cette dimension de la transformation de l'information. Et nous, on a fait beaucoup d'études sur ça. Dans mon laboratoire en particulier, on s'est intéressé à la façon dont une information va se transformer, on parle d'une distorsion à mesure qu'elle est transmise d'une personne à une autre. Et donc, vous savez, il y a un jeu qu'on appelle le jeu du téléphone que les enfants font souvent à l'école. Donc, on leur donne une histoire, ils racontent à quelqu'un d'autre, qui raconte à quelqu'un d'autre. C'est très rigolo de voir comment l'histoire va se déformer. Eh bien, nous, on fait pareil en laboratoire. Avec des participants qu'on recrute et qu'on paye, sauf qu'au lieu de leur donner une petite histoire sympathique, on va prendre un sujet qui est une controverse actuelle, une controverse dans la société. Par exemple, on a fait l'étude sur les risques et les bénéfices d'un produit chimique qui serait potentiellement un perturbateur endocrinien, mais on sait pas. D'accord. Et donc on recrute des groupes de participants qu'on va créer une chaîne de transmission. On donne le message au premier, donc un message assez complet avec des informations scientifiques. Qui va le répéter au second, qui va le répéter au troisième, etc. Et ce qui est très intéressant, c'est que si vous faites cette expérience avec des gens qui ont des a priori contre l'industrie pharmaceutique, par exemple, eh bien, vous allez voir que tout ce qui est bénéfice va disparaître au fur et à mesure de la transmission, et tout ce qui est risque va être amplifié. Et si vous refaites la même expérience avec des gens qui s'en fichent ou qui n'ont pas d'a priori particulier, eh bien, ça va être plutôt l'inverse. Vous allez voir les bénéfices qui sont amplifiés et les risques qui vont avoir tendance à disparaître. Et donc, en fait, ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Le fait que la déformation du message va être révélatrice de ce que pensent les gens qui le transmettent. Et c'est notre cerveau, à nouveau, qui a un biais. Lorsqu'on a un message complexe qu'on reçoit, eh bien, on va tendance à filtrer. On va garder ce qu'on a envie d'entendre inconsciemment, sans s'en rendre compte, et on va oublier ce qu'on n'a pas envie d'entendre. Et ça, eh bien, dans un effet de propagation, ça a tendance à s'amplifier.
Mehdi Moussaïd, le fait d'être ensemble peut aussi se révéler salvateur, comme cela s'est passé le 8 janvier 2015, lorsqu'une foule s'est rassemblée spontanément juste après les attentats de Charlie Hebdo.
Charlie, un seul prénom porté comme un étendard par des milliers d'anonymes dans cette foule qui déborde de la place de la République, presque blottis les uns contre les autres.
On a besoin de se retrouver, ouais. Vraiment, de se retrouver humainement au-delà des réseaux sociaux, on a besoin presque de se toucher. Enfin,
c'est une thérapie, c'est pas seulement une thérapie parisienne, c'est toute la France qui est dehors. Et je pense qu'en Europe, il y a également des rassemblements. On a des SMS, on a des messages d'amis absolument partout qui sont avec nous ce soir. Et c'est ça qui est merveilleux.
Être ensemble, c'est aussi un besoin quasi vital, Mehdi Moussaïd.
Oui, et il y a beaucoup de recherches qui sont en cours en ce moment pour voir quel va être l'effet sur notre bien-être, par exemple, de se voir uniquement à travers des écrans interposés. Qu'est-ce qu'on garde tout de même de ces interactions sociales, hein? Je pense que c'est pas complètement différent du contact réel, mais qu'est-ce qu'on perd aussi à côté de ça? Il y a beaucoup de recherches, surtout en ce moment, par rapport à la crise qu'on traverse.
Mehdi Moussaïd, vous qui avez commencé votre carrière comme éthologue, comment est-ce que vous en êtes venu à vous intéresser aux hommes?
J'ai débuté directement sur l'étude du comportement des foules, mais c'est vrai que j'étais dans un environnement scientifique qui était exclusivement composé de biologistes qui étudiaient le comportement des animaux sociaux. Donc il y avait par exemple des gens qui s'intéressaient aux colonies de fourmis, d'autres qui s'intéressaient aux essaims d'abeilles, aux oiseaux, aux poissons, aux moutons, etc. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il y a énormément de points communs entre le comportement d'une foule et le comportement de ces différents animaux sociaux. Chez les moutons, par exemple, les moutons vont avoir tendance à imiter énormément leurs voisins. Et puis ça va créer des effets d'entraînement avec tout le troupeau qui va dans une certaine direction à l'unisson. On retrouve des choses similaires chez les humains, par exemple dans un contexte de danger, après un attentat terroriste, par exemple. Si vous avez une personne dans une foule qui se met à fuir, eh bien spontanément, ses voisins vont se mettre à fuir aussi, et les voisins des voisins, et puis on va avoir toute la foule qui va créer ce qu'on appelle un mouvement de panique. Et ça, on peut décrire ça mathématiquement de la même façon pour les foules et pour les troupeaux de moutons, par exemple. He's wearing a doctor's coat, but in his hand is the ring of a lawmaker. He's wearing a doctor's coat, but in his hand is the ring of a lawmaker. He's got the cures we need. People rejoice in that. They say how hard it's been and how easy it'll be. He's wearing the doctor's coat, but in his hand is the ring. Thank you.
by one, they stop seeing the colors they used to see. And the light turns bleak, white, red, and their lips go round instead. And now the crowd is naked on the ground. And now the crowd is naked on the ground. In front of the pile, the man drinks his solution, levels it up against the sun, a sick kind of ablution. The red glow in his face, making him look like the Son of God.
Lawmaker, c'était Darkseid.
Les aventuriers sur France Inter.
Étudier les foules pour comprendre et prédire leur comportement intéresse de nombreux secteurs. Des scientifiques ont découvert qu'une foule peut réaliser des prouesses cognitives hors du commun, ce qui ouvre de nouvelles perspectives. Mehdi Moussaïd, est-ce que le business de la fouloscopie a le vent en poupe ?
Oui, alors pour le moment, c'est surtout en termes de gestion de foule, gestion de piétons, par exemple, dans les espaces publics, parce que de plus en plus, nous, les chercheurs, on va créer des modèles qui décrivent comment se comportent les piétons, comment se comporte une foule, et ces modèles permettent de faire des prédictions, et donc il y a beaucoup d'entreprises qui vont utiliser ces modèles pour prédire comment va se déplacer une foule, par exemple, dans votre magasin, ou dans votre musée, dans votre galerie commerciale, et ça, c'est très pratique d'un point de vue marketing. Et donc ce sont il y a beaucoup d'entreprises qui naissent en ce moment à ce sujet, peut-être un petit peu moins en termes de d'intelligence collective, hein, parce qu'on parlait aussi de prouesse cognitive, mais je pense que ça ne saurait tarder.
Est-ce qu'il y a une intelligence véritablement collective des foules ?
Oui, clairement, il y a une forme d'intelligence collective, ce qui est souvent un peu surprenant parce que dans l'imaginaire collectif, une foule, c'est synonyme de bêtise collective. Et effectivement, ça a été l'idée dominante jusqu'au milieu des années 90. Ce n'est pas complètement faux. Il y a effectivement une face sombre. Il y a une forme de bêtise collective. C'est possible. Hein. Les gens peuvent s'entraîner les uns les autres à faire des choses incroyables. Par contre, ce qu'on avait oublié jusqu'à avant les années 90, c'est qu'il y a aussi l'autre face. Dans certaines conditions, on peut faire émerger des formes d'intelligence collective. Donc, les choses ne sont pas juste blanches ou noires. Hein. Effectivement, il y a ces deux faces qui cohabitent et il faut oublier aucune des deux. Dans les années 90, à la fin des années 90,
oui,
par
qu'est-ce
exemple,
qui s'est
une
passé
partie, une partie d'échec, par exemple, qui a été jouée entre un champion du monde, qui était Garry Kasparov à l'époque, était le meilleur joueur sur la planète, et une foule de joueurs amateurs qui pouvaient s'inscrire sur Internet. Et en fait, la foule jouait par un vote à majorité. Donc, chaque coup sur l'échiquier était choisi par un vote. Il y avait, si je ne me trompe pas, à peu près 50 000 joueurs. 50 000 joueurs qui votaient en même temps pour le coup suivant, et Garry Kasparov pouvait ensuite jouer son coup à lui. Et cette partie, très étonnamment, a été équilibrée. Alors au final, c'est Garry Kasparov qui l'a emporté, mais finalement, peu importe. Ce qui était intéressant de constater, c'est qu'on a eu un match équilibré, comme si l'expert et la foule pouvaient, dans les bonnes conditions, s'égaler en quelque sorte.
Donc on peut parler presque de la notion de cerveau collectif, pour en revenir aux animaux sociaux, comme une colonie de fourmis.
Oui, on peut parler de ça, effectivement. C'est vraiment cette transition qu'il y a eu dans les années 90 quand on a commencé à comprendre ce qu'on appelle maintenant l'intelligence en essaim. Donc, c'est comment une colonie de fourmis va réussir à résoudre des problèmes extrêmement complexes. Hein. Si vous mettez, par exemple, une colonie de fourmis dans un labyrinthe, elle sera capable de trouver le plus court chemin entre deux points. Ce qui est assez fascinant parce qu'aucune des fourmis n'a même l'idée d'être dans un labyrinthe. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à comprendre qu'il y avait cette dynamique d'intelligence en essaim qui était possible et qu'on s'est tourné vers les foules humaines pour voir si c'était aussi possible chez les humains. Début des années 2000, vous avez l'exemple de Wikipédia, par exemple, qui a émergé, qui est cette fois-ci une forme de mise en commun de la connaissance, de structuration de la connaissance, qui fonctionne très bien. On connaît le succès de Wikipédia. Il y a des études qui sont sorties pour comparer la fiabilité de Wikipédia avec celle d'une encyclopédie traditionnelle écrite par un expert. Eh bien, dans les deux cas, c'est imparfait, mais c'est imparfait de la même manière. Et à nouveau, on a l'exemple de, c'est un peu cette même idée qu'avec Garry Kasparov, l'idée que entre un expert ou un ensemble de gens pris au hasard, eh bien, si les conditions sont bonnes, on va réussir à avoir à peu près le même résultat.
Est-il possible, à votre avis, de mesurer le quotient intellectuel d'une foule ?
Il y a des études qui sont en cours. Alors, on n'est pas vraiment à l'échelle de la foule, on va être plutôt à l'échelle du petit groupe ou du grand groupe. Donc, vous avez des groupes de travail qui ont été formés lors d'une étude qui a eu lieu en 2010, je pense. Des groupes de travail qui ont été formés, et puis on a essayé de mesurer, qui était composé de jusqu'à une dizaine de personnes, il me semble, et on a essayé de mesurer quel était le QI collectif, non pas des individus, mais le QI collectif de ce groupe, en mettant le groupe face à une série d'exercices cognitifs. Et on s'est rendu compte, effectivement, qu'il y avait des groupes qui étaient extra performants, d'autres qui étaient très peu performants, et de manière très étonnante, ce n'est pas corrélé avec le QI individuel des membres du groupe. Donc vous pouvez en fait créer un groupe avec des gens qui ont un super QI et le groupe va être nul. Par contre, vous pouvez aussi créer un... Et inversement, vous pouvez prendre des gens normaux comme vous et moi et puis on les met ensemble et en fait on va avoir un groupe super efficace. Et on se demande en fait d'où émerge cette notion de QI collectif si ce n'est pas la compétence des individus qui est en jeu.
Une foule d'altruistes a plus de chances qu'une foule d'individualistes. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette formule ?
Alors c'est assez conceptuel, mais c'est tout à fait vrai. Une foule d'altruistes aura plus de chances qu'une foule d'individualistes, mais attention, un individualiste seul au milieu d'une foule d'altruistes s'en sortira beaucoup mieux que les autres.
Ah.
En fait, oui exactement. Quand les gens sont altruistes, quand ils ont tendance à partager, à coopérer, il faut que tout le monde partage. Et si une personne a la mauvaise idée de se dire, mais dis donc, si tout le monde est en train de partager, peut-être que je pourrais la jouer solo et partir tout seul, et cette personne va très bien s'en sortir. Alors c'est peut-être un peu abstrait tout ça. Je vous donne un exemple. Pendant une évacuation d'urgence, par exemple, on nous répète tout le temps qu'il ne faut pas courir pour sortir. Il vaut mieux sortir en marchant. Et c'est tout à fait vrai. Si tout le monde se jette sur l'issue de secours en courant, eh bien, en fait, il va y avoir des blocages au niveau de la sortie. Les gens n'arriveront pas à sortir. En revanche, si tout le monde sort en marchant, les gens vont sortir beaucoup mieux et tout le monde sera sorti plus vite si tout le monde marche. Mais si tout le monde marche pour sortir, eh bien, vous, individuellement, vous avez intérêt à courir parce que vous allez doubler les autres et vous serez le premier dehors. Mais si tout le monde court, plus personne ne sort.
Vous avez quand même montré qu'on allait plus vite en allant lentement.
C'est un effet qui est à nouveau de la physique. Hein, on peut observer la même chose si vous faites couler, par exemple, du riz à travers un entonnoir. Vous allez voir que si vous faites couler le riz lentement, l'écoulement sera continu et ça va bien marcher. Si vous faites couler trop vite, il va y avoir des petits bouchons qui vont se former au niveau du rétrécissement et le riz ne va plus sortir. Et bien pour une foule, c'est la même chose. Il faut donc sortir doucement, se hâter quand même, mais avec lenteur.
Les hommes, vous l'avez dit, sont des animaux sociaux. Je vous propose un extrait de l'émission L'Heure Bleue qui a été diffusée le 22 mars 2021 en pleine pandémie. La philosophe Claire Marin parlait des foules.
On a tellement critiqué en philosophie, en psychologie, la foule qui nous déresponsabilise, qui nous abrutit, etc. Mais comme ça nous manque aussi, cette présence, ces moments où on est tous à l'unisson, on chante ensemble, on danse ensemble, etc. Et ça, je pense que il faudra peut-être y revenir ou le réétudier. On avait beaucoup écrit sur la fête, mais ce que ça fait d'appartenir à une foule, à un corps d'individus, à être partie d'un tout, il faudra peut-être le repenser. C'est pas seulement l'autre qui nous manque, c'est aussi le groupe et l'énergie que je puise dans cette assemblée, cette unification, cette mise à l'unisson des sujets. Il y a quelque chose aussi qui me donne une énergie. Cette énergie-là, effectivement, on l'a plus. On parle souvent de la pulsation de la ville. Là, les villes sont ralenties. C'est aussi ça qu'on aime dans les vies urbaines. C'est ce rythme-là.
Le besoin de l'autre, vous n'allez pas dire le contraire.
Je vais pas dire le contraire, effectivement. Et je dirais même le besoin de l'autre qui va partager un petit peu les choses qu'on vit. Donc, ce qui est encore plus fort, comme je vous le disais un petit peu plus tôt, c'est vraiment d'être entouré de gens qui vont partager la même émotion que nous. Si je suis triste après un attentat et que je vais dans la rue, que je suis entouré d'autres gens tristes, ça va faire du bien, ça va amplifier cette tristesse, mais à nouveau, ça va faire du bien. Si je suis heureux après la victoire de l'équipe de France, je suis entouré d'autres gens heureux. Si je suis en colère, je suis entouré d'autres gens en colère. Et c'est ce fait de, cette idée de partager les mêmes émotions, de sentir que les autres sont dans le même état d'esprit que nous, qui est quelque chose d'assez important.
Ouais. Car le fait d'être ensemble amplifie ce que nous avons en commun, c'est ce que je comprends de vos propos. Alors toujours à propos de la pandémie, est-ce que vous étudiez dans votre laboratoire la façon dont un virus peut se propager ?
On va pas faire de l'épidémiologie vraiment en étudiant la façon dont se propage le virus. Cependant, il existe des modèles de propagation qui sont utilisés pour les virus, qui sont très intéressants pour nous parce qu'on va les utiliser, par exemple, pour regarder comment vont se propager les jugements et les opinions. Parce qu'en fait, un avis sur le web, par exemple, mais dans la vraie vie aussi, va se propager comme un virus. À savoir qu'il peut, il est contagieux. Un jugement peut passer d'une personne à une autre. Je peux influencer la personne à qui je parle sur un certain sujet qui va influencer sur une autre, etc. Et en ce moment, l'avis que l'opinion collective, c'est quelque chose qui est très important quand on parle, par exemple, de vaccination, de restrictions de liberté, de confinement, etc. Il va y avoir un jugement collectif de la population qui va apparaître. On essaie de l'anticiper comme on peut. Et pour ça, on utilise des modèles de propagation de virus, sauf qu'on remplace virus par jugement.
Et vous travaillez donc avec des mathématiciens, des informaticiens, des psychologues, comme vous nous l'avez expliqué au début de l'émission. Ce que je retiens, c'est que la foule, c'est quelque chose de vivant qui peut nous apporter du bien. Et je vous propose de terminer l'émission avec cet extrait du Carnaval de Nice de 1948. Il était décrit par un journaliste qui s'appelait Georges Jeville.
La cohue est bruyante, remuante, riante, volubile et insouciante, le vrai niçois. Il vit du soleil pour le soleil et par le soleil. Ah ah, qu'est-ce que j'aperçois là-bas? Un petit mouvement. Oui. Des gens se précipitent et des agents aussi. On siffle. Tiens, il se passe quelque chose. Ce sont deux jeunes gens qui voulaient traverser. On les ramène à leur point de départ et on rit. On a raison, fallait pas faire le malin. Aussi loin que se porte mon regard, c'est une véritable mer humaine. Il y a en bas un indescriptible remous-ménage, un véritable flux et reflux de cette foule qui gigote, qui s'agite, qui ne peut pas rester deux secondes en place.
C'était le Carnaval de Nice en 1948. Est-ce que une foule à Nice et une foule à Berlin, c'est pareil ?
Effectivement, il y a des différences. D'une manière générale, le comportement collectif sera semblable, mais on va trouver des différences individuelles au niveau des piétons. Je dirais que la foule berlinoise est un petit peu plus disciplinée, pour être un peu dans les clichés. Mais effectivement, c'est le cas. Mais il y a toujours des effets d'entraînement. Par exemple, ce qui est intéressant, c'est que les piétons, typiquement, ici, s'arrêtent au feu rouge pour piétons, même lorsqu'il n'y a pas de voiture. Ça est considéré comme un feu rouge. Et si quelqu'un veut traverser et voit d'autres personnes qui ne traversent pas, et bien cette personne va se retenir de traverser et va s'arrêter pour rester dans l'esprit du groupe. Alors qu'en France, c'est typiquement l'opposé. Au contraire, si quelqu'un commence à traverser pendant que tout le monde est arrêté, eh bien c'est cette personne qui va entraîner les autres. Donc il y a un effet d'influence dans les deux pays, mais l'effet d'influence, il va aller dans le sens de la norme culturelle, donc dans le sens de s'arrêter au rouge en Allemagne et dans le sens de traverser quand même en France.
L'imitation toujours. Merci beaucoup, toujours. Mehdi Moussaïd.
Avec plaisir.
Foulescopie, ce que la foule dit de nous, de Mehdi Moussaïd, est paru chez Humaine Science. Les Saventuriers, une émission réalisée par Stéphanie Texier avec Fanny Leroy. Merci à Stéphanie Place de l'INA pour la documentation et les archives, et à Djoubaka pour la programmation musicale. Cette émission est disponible en podcast, bien sûr, comme toutes celles de cette série estivale consacrée à l'intelligence du vivant. La semaine prochaine, les relations entre les humains et les autres animaux. Les découvertes scientifiques nous poussent à changer notre regard sur le monde animal. La philosophe Vinciane Després sera l'invitée des Saventuriers. Thank you. France Inter.